Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté. C'est l'histoire d'un type qui trouve un pingouin en plein Paris. Alors il prend le pingouin par la main, parce que les pingouins ont des mains, il y a Clément Faux qui n'en ont pas. Il l'emmène jusqu'au carrefour où il y a un agent de police en faction. Il lui dit, monsieur l'agent, j'ai trouvé un pingouin, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il dit, emmenez-le au zoo. Ah très bien, c'est une bonne idée ça. Et le lendemain, l'agent de police revoit le type avec un pingouin, le même pingouin. Il dit, mais vous devez l'emmener au zoo ? C'est fait, on va au cinéma aujourd'hui.
Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Ozone Libre numéro 2 sur Principe Actif. Aujourd'hui, nous vous proposons l'émission qui va vous parler simplement, mais avec des mots compliqués. Rassurez-vous, on n'a pas tout compris non plus. Pour vous servir aujourd'hui, Didier, Magali, Willy, Stéphane, Jean de la Lune, Sandrine, Patrick, JC, Claire, Béatrice et Catherine. Et au sommaire...
Alors, texte de Stéphane, l'invité du jour Grégory Lange du Carude, micro-trottoir sur la question de la précarité, le gazouillis de Jean de la Lune, le cinéma, la cuisine et la chronique du pôle.
Quelle hauteur, s'écria-t-il en regardant le quartier où il devait se rendre. Et en effet, le quartier était sur les hauteurs de la ville, et il devait s'y rendre impérativement. Bien sûr, le funiculaire n'était exceptionnellement pas ouvert. Exceptionnellement, ça veut dire ouvert tous les jours sauf quand j'en ai besoin, s'écria-t-il encore. Je vais devoir monter à pied, ajouta-t-il. Et rien que d'imaginer le trajet, il avait déjà mal aux pieds. J'en ai au moins pour une heure de montée, s'énerva-t-il. Et pour une fois, il n'était pas excessif, bien au contraire. Il était même en dessous de la réalité. Tout en pestant contre le funiculaire fermé, l'escalier mal foutu et les reliefs de cette ville, il commença à monter les marches d'un pas lent et sans éclat. « C'est pas possible, s'écria-t-il, j'avance pas. » Et de fait, il n'avançait pas vite. « Au moins il fait beau, se dit-il à lui-même. C'était le printemps et le soleil était au rendez-vous, trop même. Bientôt il eut trop chaud, enleva son manteau et pesta de nouveau contre le funiculaire, l'escalier, les reliefs et maintenant la chaleur. Il devait être à la moitié de son ascension. Il se retourna et se dit que décidément, il n'avançait pas. À force de râler, il finit par arriver au bout de l'interminable escalier. Il retrouva le sourire. Il a fait tout ce chemin pour acheter les fleurs les plus parfumées de la ville, celles qu'on trouve chez ce petit fleuriste des hauteurs. Il perdit le sourire brusquement lorsqu'il arriva devant la porte du fleuriste et vit un écriteau lapidaire, fermeture exceptionnelle.
Ta voix serait familière, la rue serait déserte, tu rougirais. Et tu me dirais, je cherche l'hôtel des caravelles, tu es si belle, tu aurais des yeux transparents, un manteau de demi-saison. Aujourd'hui, c'est le printemps. Ta façon de dire, ta façon de rire, un jour merveilleux. Pour être amoureux, en traversant l'esplanade, tu me tires par la manche vers le canal. Tu me dirais si dimanche tu m'emmènes en bateau. Il fait si beau, et en passant devant l'église, c'est moi qui dis des sottises. Aujourd'hui, c'est le printemps. Ta façon de dire, ta façon de rire, un jour merveilleux pour être amoureux. Les camélias, les rosiers, les cerisiers sauvages volent en éclats. J'entends les pleurs du bébé, les cloches à la volée l'ont réveillé. Et tu dors dans la chambre verte, la fenêtre à l'espagnolette. Aujourd'hui, c'est le printemps. Ta façon de dire, ta façon de rire, un jour merveilleux pour être amoureux, amoureux. Aujourd'hui, c'est le printemps.
C'était Hôtel des Caravelles, Julien Clerc. Bonjour. Usagers ou professionnels, il est arrivé pour certains d'entre nous de croiser le chemin de l'association Le Carud. Dans le cadre de notre émission Aux Zones Libres et en direct, s'il vous plaît, nous sommes très contents de recevoir Grégory Lange, qui fait partie du Carud. Grégory, bonjour et bienvenue sur Prince et Captif. À la première question, je la laisse à Magali.
Alors Grégory, une question, que veut dire Carud ?
Donc bonjour Magali, bonjour Willy, puis bonjour à tous. Donc le Carud, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Très très simplement, c'est une structure qui reçoit majoritairement des consommateurs de drogue, hein, comme son nom l'indique. Pardon. Quand on dit drogue, on entend produits autorisés ou interdits, on ne fait pas de différence. On a une très grande majorité de personnes qui sont ce qu'on appelle polyconsommateurs, qui consomment différents types de produits. Et c'est une structure où on vient pour se poser, pour prendre un café, pour laver son linge, pour se laver soi aussi. On vient pour mettre une parenthèse, je dirais, par rapport au mode de vie de la rue. On reçoit, la plupart des gens sont quand même relativement précarisés, c'est rien de le dire. Et c'est une structure surtout aussi où on vient proposer aux usagers de drogue d'avoir accès à du matériel, des informations, mais aussi surtout du matériel de réduction des risques. Très simplement, le matériel de réduction des risques, ce sont des outils qui visent non pas à empêcher les gens de consommer des drogues, mais qui peut les aider à réduire les conséquences de l'usage de drogue sur la santé. Si vous voulez un tout petit exemple de matériel de réduction des risques, notamment, hein, enfin, le plus probant, le plus important, je dirais immédiatement, c'est tout ce qui est échange-récupération de matériel d'injection, puisque même si ce n'est pas la grande majorité des usagers du Carud, c'est presque la moitié qui sont concernés par l'usage par injection. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les gens de consommer, on n'a pas la prétention de savoir ce qui est bon pour eux. Par contre, on leur propose les moyens de rester en bonne santé de façon à ce que le jour où ça ira mieux, le jour où il y a un véritable désir de mettre une distance avec ce genre de pratique, eh bien, on puisse le faire avec la meilleure santé possible et les meilleures orientations possibles.
Alors, où se situe le Carud ?
Alors, il se situe pour Évreux au 10 de la rue Chartrenne. Oui. Donc, c'est notre local d'accueil. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h. On peut trouver aussi les outils de réduction des risques sur l'association Adissa, qui est, je dirais, la maison mère hein, du Carud, puisque le Carud est un service de l'association Adissa. Et donc, c'est situé au 1 rue Charles Corbeau à Évreux. Et les outils de réduction des risques, donc je parlais des systèmes d'échange récupération de seringues, mais il y a aussi tout un tas d'autres outils en matière de réduction des risques concernant l'usage de drogue, peuvent se trouver sur l'ensemble du département auprès des associations Adissa.
Alors, n'est-il pas difficile de pousser la porte du Carud quand on est en grande détresse ? Y a-t-il un numéro d'urgence ou...
Alors, je dirais que la difficulté, elle est forcément là, puisque passer la porte d'une structure sans savoir qui on va rencontrer, c'est extrêmement difficile, sachant qu'il y a un a priori légitime, enfin, tout à fait logique, puisqu'on pense très souvent que rentrer dans une structure qui vient aider des usagers de drogue, c'est forcément parce qu'on souhaite arrêter et on va nous pousser à l'arrêt. Bien sûr. L'importance du Carud, et ça, je pense que c'est. Je vous remercie de nous avoir invités parce que c'est important pour nous de le signifier, c'est qu'il n'y a absolument aucun jugement par rapport à l'usage de drogue, absolument pas. Si les gens sont dans ces pratiques-là, c'est parce que d'une certaine manière, ça les soutient. Voilà. Et donc, encore une fois, on n'a pas la prétention de savoir ce qui est mieux à la place. Par contre, de rappeler qu'il y a un non-jugement par rapport aux pratiques permet évidemment de passer la porte du Carud. Je dirais que la première porte d'entrée, ça reste le bouche à oreille, évidemment. C'est quelqu'un qui nous connaît, qui va parler à d'autres consommateurs pour favoriser l'entrée et la rencontre avec notre dispositif. Le numéro de téléphone, par contre, il n'est pas d'urgence.
Je vais le dire.
Mais il est, il est effectif au moment des horaires d'ouverture. C'est le 02 32 67 71 20. Ou le numéro de téléphone de la DISA, du lundi au vendredi, 02 32 62 89 20.
Il y a peut-être d'autres questions dans le studio.
Qu'est-ce que vous êtes amené à distribuer d'autres comme matériel ?
Alors, il y a plein de petits matériels par rapport à l'injection. C'est pas seulement des seringues stériles, c'est aussi des crèmes cicatrisantes. C'est plein de petits outils pour faire attention à soi. C'est aussi beaucoup d'informations, de documents papier sur l'ensemble des drogues qui puissent exister, qui peuvent être disponibles. Ça va du tabac en passant par le cannabis, en passant par tous les produits qu'on peut connaître. C'est aussi des petits documents tout bêtes. Je prends un exemple là pour rappeler ce que c'est que la réduction des risques aussi. Il y a des documents qui s'appellent les roules tapaille. C'est un peu particulier. C'est un petit outil sous forme papier qui invite à rouler sa paille quand les gens sniffent une drogue. Alors, j'espère que je vais choquer personne. L'idée, c'est pas d'encourager la consommation par la voie nasale en donnant des outils type roule tapaille. C'est que ce petit document invite à ne pas partager sa paille au cas où des usagers auraient recours à cette pratique-là. Et il alerte surtout sur le risque de transmission de l'hépatite C si on prête la paille en question. Donc donner un bout de papier n'invite pas à consommer des drogues. On ne pense pas qu'un bout de papier puisse avoir une influence sur le désir d'un usager à consommer des produits. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une information qui est notamment la contamination par l'hépatite C si on prête sa paille. Parce que quand on est consommateur de produits, si on consomme, c'est pour faire la fête, pour avoir du plaisir ou pour soulager une souffrance éventuellement. Mais c'est surtout pas pour finir aux urgences ou pour attraper un virus comme l'hépatite C.
Parmi ces personnes que vous recevez et qui ont du matériel pour réduire le risque de consommation, lors de la consommation, est-ce qu'il peut arriver que des gens veulent arrêter de consommer les drogues ?
Bien sûr. Je dirais que ça, c'est surtout un processus. Si on considère que l'usage de drogue, c'est un parcours, il y a un début avec des premières consommations qui ont souvent à voir avec l'espace festif, avec des moments de fête ou de rencontre particulières. Et puis, il y a une fin qui consisterait à arrêter de consommer, qu'on pourrait appeler l'abstinence. L'idée, c'est de proposer des outils en fonction du moment où se situe l'usager dans son parcours. Voilà. Et de ne pas forcément être dans un désir d'abstinence pour l'usager s'il n'est pas prêt à ça. Pour autant, en filigrane, derrière nous, toujours, il y a l'idée que c'est un lieu formidable pour rencontrer des usagers qui ne sont pas forcément prêts à arrêter, qui sont dans tous les cas dans un moment d'usage. Mais c'est un moment, un prétexte à la rencontre extrêmement important pour donner envie de faire attention à soi. Et faire attention à soi, ça peut être par exemple arrêter la pratique de l'injection. Ça peut être d'ouvrir ses droits sociaux. Ça peut être d'abord de travailler la question du logement. Et viennent naturellement des désirs qui concernent, à un moment donné, l'arrêt ou la mise à distance des consommations de produits. Et c'est ça notre travail, encore une fois, c'est de coller au plus près des besoins des usagers sans forcément avoir en premier lieu l'idée qu'il faille d'abord arrêter.
Très bien. Donc, et pour vous aider dans cette mission, vous travaillez avec qui ?
Alors, on travaille déjà sur la structure. On a bien sûr des professionnels de santé, notamment des médecins, qui viennent faire des permanences le samedi après-midi, samedi sur deux pour être exact. Ce sont des consultations de médecine générale que nous offrons dans le cadre du Carud. Il y a aussi des travailleurs sociaux, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés. On a bien sûr des liens avec d'autres structures parce que nous, tout seuls, on ne peut rien faire ou pas grand-chose. On peut entamer une rencontre, mais l'idée, c'est de favoriser le lien avec les dispositifs existants. Et donc, on est bien sûr en lien avec tout un tas d'autres dispositifs qui œuvrent pour la lutte contre la toxicomanie sur le département ou qui travaillent sur la question de la précarité, notamment du logement, qui travaillent sur l'accès aux droits, sur l'accès à la santé. Donc, c'est un fabuleux espace d'orientation pour un public qui, très souvent, dans un premier temps, méconnaît les dispositifs existants. On a aussi bien sûr des partenariats avec des structures, je dirais, clés par rapport au public que l'on touche, nous, au Carud. Ça va être notamment avec Accueil Service, dans lequel on effectue une permanence le vendredi matin. Des salariés du Carud effectuent une permanence sur Accueil Service pour rencontrer des usagers qui ne connaîtraient pas forcément le Carud, ou au contraire, qui sont suivis aussi au Carud, mais ça permet aussi de tisser du lien avec un public essentiellement dans la précarité. On travaille aussi, bien sûr, avec la maison d'arrêt d'Évreux. où l'idée c'est, alors c'est tous les mardis matin, il y a une permanence qui est faite au niveau de Luxor, hein, l'espace médical, voilà, de la détention, où nous proposons une rencontre collective autour d'un café avec des détenus qui sont pour la plupart au moment de notre permanence présents parce qu'ils sont dans des protocoles de soins par rapport au traitement de substitution, hein, donc une démarche de soins pour arrêter de consommer, au moins sur le temps d'incarcération dans tous les cas. Et l'idée, c'est de proposer des entretiens pour préparer le lien avec la sortie. Et pour ceux qui seraient toujours dans un moment de consommation, de favoriser le lien, bien sûr, avec notre dispositif, mais aussi les dispositifs de droit commun sur le secteur de leur habitation.
Est-ce qu'il vous arrive, donc vous allez à la maison d'arrêt, vous avez une permanence avec accueil service, est-ce que vous participez au rêve ou je sais plus comment ça s'appelle
Tout ce qui est espace festif.
Voilà, c'est ça.
Alors, pour ma part, ça me paraît essentiel hein, qu'on puisse avoir un regard sur ce qui se passe en amont des démarches de soins ou des structures médico-sociales. Le véritable usage de produits psychotropes, l'usage de drogue, il a à voir avec la fête, il a à voir avec l'espace privé, il a à voir avec ce qui se passe en appartement, mais ce qui se passe aussi sur les fêtes, où il y a parfois une visibilité des consommations de produits. Alors je parlerai d'un dispositif là, très rapidement, hein, qui n'est pas directement le CARUD, mais avec lequel on est bien sûr associé, c'est l'association Préventeuf. Donc je participe personnellement, bien sûr, et depuis sa création, à l'association Préventeuf, et c'est une association qui fait de la prévention en milieu festif. Dans plus de 80% des interventions, et encore sur les dernières années, ça se fait essentiellement sur le milieu festif à caractère techno, et notamment les free parties, donc des fêtes qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas légales, en tout cas qui ne demandent pas d'autorisation particulière pour s'implanter. Mais dans ces espaces-là, il y a une visibilité des consommations de drogue. Il n'y en a pas forcément plus, d'ailleurs, hein, qu'en boîte de nuit. Par contre, comme il n'y a pas de responsable officiel, il y a une visibilité. Et dans cet espace-là, on met en place des informations et des stratégies de réduction des risques. Ça va être de proposer les outils, bien sûr, qu'on propose dans le cadre du CARUD, tous les documents papier, tous les documents d'information classique par rapport aux drogues, les roules tapailles que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, mais aussi des outils comme le testing, hein, le contrôle des produits qui sont consommés, non pas pour donner une sorte de bénédiction pour dire aux gens bah, « allez-y consommer parce que c'est le produit que vous attendiez », c'est surtout un formidable prétexte pour entamer un dialogue avec des gens qui, avec ou sans nous, vont consommer dans tous les cas et passer un moment de fête. L'idée, c'est de rapprocher l'information au plus près des usagers pour permettre, en toute connaissance de cause, d'adapter ces stratégies d'usage pour tout consommateur potentiel de produits. Et l'alcool y compris, bien entendu.
Alors, vos méthodes de prévention sont assez directes, pour le coup, entre le testing, la mise à disposition de matériel. Est-ce que, alors j'aurais presque envie de me faire l'avocat du diable en disant, est-ce qu'au bout d'un moment ça contribue pas à une espèce de banalisation de l'usage de drogue? Comment est-ce que c'est perçu par le public? Et est-ce que ça contribue pas à une banalisation?
Alors, comment c'est perçu par le public? Ça doit être distingué évidemment entre le public des usagers et le public, je dirais, pas forcément sensibilisé à la question de la réduction des risques. Forcément, il y a une vraie différence de ton et de regard. Ce qui est certain, c'est qu'avec ou sans notre travail, mais aussi avec ou sans le travail des répressifs, hein, ce qui est aussi une manière d'intervenir, mais complètement différemment, la drogue, elle est présente. On a, il me semble, jamais autant eu de produits différents disponibles sur les territoires en France. Est-ce qu'on peut faire l'économie d'un discours de prévention qui consiste à s'intéresser à l'usage et aux modalités d'usage? Ça, je ne pense pas. Ça me paraît essentiel qu'on travaille ces questions-là. Imaginez, par exemple, qu'on refuse catégoriquement qu'on s'empêche de parler de prévention par rapport à l'usage d'alcool. Qu'on rappelle pas qu'on peut faire un coma éthylique. Qu'on rappelle pas qu'il faut au minimum une demi-heure entre le moment où on ingère un produit comme l'alcool et le moment où le maximum des effets atteint le cerveau. Ça paraîtrait extrêmement dommageable, surtout pour un public jeune qui commence à rencontrer les produits, d'où cette importance de présenter une information objective sur les produits. Il y a aussi une réalité en termes de disponibilité, j'en parlais, mais surtout, on a un jeune sur deux aujourd'hui, en France, on le sait, c'est très clair, qu'il y a déjà au moins une fois consommé du cannabis. Est-ce qu'il faut simplement rappeler que le cannabis, c'est dangereux pour les poumons, que ça peut mener en prison? Ou est-ce qu'il faut parler aussi de risques supplémentaires au cannabis, comme faire des filtres carton qui sont contre-productifs au niveau respiratoire, qui posent problème au niveau respiratoire? Est-ce qu'on doit s'empêcher d'amener un discours objectif? Je ne crois pas. Donc derrière cette position qui peut sembler militante, il y a un vrai besoin d'informer enfin objectivement sur la question des drogues, de laisser de côté le côté passionné d'une interdiction ou à l'inverse d'ailleurs, un discours prosélyte qui consisterait à dire « c'est pas dangereux, allons-y ». Il y a l'idée aujourd'hui d'être le plus objectif possible et on se rend compte auprès du public utilisateur de produits, quel qu'il soit, qu'il y a une énorme demande d'objectivité par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est important aussi qu'on puisse croiser le savoir des professionnels, j'entends le savoir infirmier, le savoir médical, avec celui des usagers. Et non juger, rencontrer de façon dépassionnée, ça permet un échange qui est profitable à tout le monde, parce que travailler sans les usagers me paraît impensable aujourd'hui, évidemment.
Est-ce que je peux, oui, je voudrais savoir si vous faites de la prévention dans les collèges et lycées. Je pense que c'est là qu'il faut commencer, peut-être.
Alors, c'est pas dans le cadre du CARU dans ces cas-là. Hein. Non, c'est un dispositif bien ciblé pour des usagers qui sont installés dans la consommation de produits. On n'est pas dans ce qu'on appelle la consommation primaire. Primaire veut dire pour école primaire, oui, mais veut dire en amont, avant les consommations de produits. Mais ça, évidemment, dans le cadre de l'ADISA, mais je dirais l'ensemble des dispositifs de soins existants sur les départements. On a aussi l'association LAMPA, hein, qui est aussi sur Évreux, qui fait aussi de la prévention. L'ADISA en fait aussi, bien entendu, et ces dispositifs font de la prévention au niveau des collèges, lycées, en informant, je dirais, sur le risque en général et sur la santé en général. L'idée, c'est pas forcément d'arriver avec nos gros sabots pour dire attention, consommez pas tel ou tel type de drogue, parce que parfois c'est contre-productif, parfois c'est mal fait. L'idée, c'est d'informer sur la santé en général, de présenter les différents organismes qui travaillent sur ces questions-là pour que ces jeunes... le jour où ils auront une difficulté avec un produit ou le jour où un tiers, quelqu'un de leur entourage, de très proche, aura une difficulté avec ses comportements, puissent connaître des lieux ressources pour être aidés, soutenus et accompagnés. Entendu. Donc c'est essentiel, effectivement.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Alors là, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a plein de choses. Il y a les aléas de la vie. Et puis, il y a aussi un côté très passionné chez moi sur la question, des stupéfiants en particulier. Ouais, après, c'est très personnel. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, a fait que moi, j'ai grandi dans ce paysage-là. Je vais peut-être un peu loin sur le côté personnel. Ça va peut-être pas intéresser grand monde. Mais j'ai grandi dans ce paysage-là. D'accord. Et à partir de là, je trouve qu'il y a matière à travailler ces questions-là parce qu'on est très, très, très en retard sur les questions de prévention, sur les questions d'accompagnement, sur les questions de soins aussi, par rapport à nos voisins européens et par rapport quasiment à la totalité. Du paysage européen. Et donc, il y a un vrai travail à faire là-dedans. Et donc, c'est tout à fait passionnant de défricher, je dirais, ce qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été développé.
Entendu. Et il y a d'autres CARU qu'à Évreux en France ?
Bien sûr.
D'accord, entendu.
Alors, c'est un dispositif aujourd'hui qui est reconnu d'utilité publique, évidemment. Il faut dire aussi que ces budgets viennent de l'assurance maladie. Donc, on est vraiment des structures médico-sociales. Vous voyez, ce n'est pas seulement une prévention faite par des hurluberlus qui ont décidé de ne pas juger sur la question des drogues. C'est quelque chose qui est reconnu par l'ARS, donc qui sont nos financeurs. Hein. Et donc, ce sont des budgets assurance maladie. Et ça fait partie de la prévention et du soin. Et ça, c'est essentiel d'entendre qu'on peut très bien être suivi dans le cadre d'une démarche de soins avec, par exemple, un traitement de substitution ou une démarche pour arrêter de consommer en faisant un travail psychologique, par exemple. Et en parallèle, avoir besoin de matériel pour rester en bonne santé ou d'informations pour pouvoir soutenir ces démarches-là en parallèle, parce que c'est pas parce qu'on a décidé d'arrêter qu'on va arrêter du jour au lendemain. Et donc ça, c'est reconnu comme faisant partie du soin à part entière, et ça, c'est essentiel.
Entendu. D'autres questions, que ce soit ?
Et en ce qui concerne l'alcool...
Est-ce Alors, que, bien dans le micro, s'il
vous plaît. En ce qui concerne l'alcool, est-ce que vous assurez un suivi après avoir rencontré des gens qui possèdent, qui ont ce problème ? Est-ce qu'il y a un suivi du genre alcoolique anonyme, du genre...
J'entends votre question, hein, pas dans le cadre du CARUD. Hein, c'est un accueil collectif de gens qui sont consommateurs. Ça veut dire que pour des personnes qui arrêteraient de consommer, j'entends, quand vous dites suivi, j'entends ça, ouais, dites-moi si je me trompe, pour des personnes qui arrêteraient de consommer un produit, c'est vrai qu'on travaille surtout sur la base d'entretien individuel ou collectif, mais dans des structures qui travaillent sur le maintien de l'abstinence ou sur le soutien vraiment individualisé. Mais il y a forcément, et c'est une nécessité, quand il y a un arrêt de consommation de produits, quand les gens ont arrêté, c'est pas formidable, bravo, on check, ouais, et à bientôt. D'accord. Non, il y a vraiment un suivi, un soutien, parce que c'est un travail au long cours, et parce que réapprendre à vivre sans produit, ça nécessite aussi un soutien important. Donc ça, c'est indispensable. Ça se fait soit dans d'autres services de l'ADISA, soit bien sûr avec nos partenaires qui travaillent aussi ces questions-là.
D'accord, ok, merci.
Une question ?
Je sais que ça ne va pas de soi, hein. C'est vrai qu'on a quoi, un petit quart d'heure là, pour parler de réduction des risques, ce n'est pas un concept évident, et ça peut choquer aussi, et c'est tout à fait légitime, parce qu'on n'est pas habitué à ça, on se dit qu'il y a un problème avec les drogues, donc il faut arrêter de consommer, ça va de soi, hein. Ça, c'est évident pour tout le monde, on se rend compte que la réalité fait que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas parce qu'on a décidé de dire qu'il y avait un problème, il fallait arrêter, que pour autant ça fonctionne comme ça, donc si vous avez tout questionnement hein, complémentaire, si vous souhaitez effectivement continuer à échanger sur ces questions-là, vous êtes bien sûr les bienvenus, soit sur ADISA, soit au CARUD. On sera un plaisir de continuer ce débat-là avec vous ou avec tout auditeur qui se questionnerait sur cet échange.
Alors l'adresse, je crois que c'est 10 rue Chartrenne.
C'est numéro 10 de la rue Chartrenne.
D'accord, entendu.
Voilà, et donc bienvenue à vous, même si vous décidez tout simplement de visiter en dehors des heures d'ouverture. Hein, c'est un plaisir de pouvoir présenter le travail que l'on fait. Et plus on est informé, et plus on peut soutenir aussi ces projets-là.
Merci.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à vous
beaucoup.
Merci.
Make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can't make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. Make love to the trees, make love to the birds, make love to them one by one. I can't to make love to the trees, to make love to the birds, to make love to them one by one.
Valise, objet ô combien utile mais totalement négligé. La plupart de sa vie, elle la passera immobile, que ce soit au fond d'un placard ou sur le toit d'une armoire. Et puis un jour, tout le monde la cherche avec frénésie. Et il ne faut pas longtemps pour qu'elle se fasse insulter. Mais où est passée cette bon Dieu de valise? Ou qu'est-ce que t'as foutu cette satanée valise? Et tout le monde crie après les errements de cette valise. Elle n'a pourtant pas bougé depuis des mois. Quand enfin on la retrouve, on l'insulte encore. C'est de sa faute, elle était rangée. Comment voulez-vous qu'on la retrouve? Et ce n'est que le début des ennuis, trop grandes, trop petites, trop hautes, trop plates, trop mal fichues. Mais comment avait-on fait l'année précédente? Elle est remplie, vidée, re-remplie, revidée, remise au placard, ressortie, après moult essais. Lorsqu'on semble enfin satisfait, vient l'épreuve de la fermeture. Faudra bien que ça rentre. Quelle torture! Après de nombreux écrasements, la pauvre valise est enfin fermée, déformée par son chargement, ses propriétaires ayant pour elle les yeux plus gros que le ventre. Et ce n'est pas fini. On doit maintenant la caser dans le coffre de la voiture, et elle est loin de voyager seule. Mais comment fais-tu pour prendre autant de bordel d'un côté? Et je suis sûr d'oublier quelque chose de l'autre côté. Elle sera écrasée au fond du coffre, recouverte d'objets tous plus lourds les uns que les autres, et le chien, à peine la place pour le panier du cabot. C'est pas grave. Il posera sa tête sur le coin de la valise sur laquelle il pourra baver à loisir. Enfin, la voiture est chargée, le coffre est fermé. « En route » crie-t-on. Et c'est parti pour des heures secouées dans tous les sens. Vous l'aurez compris, les vacances d'une valise sont tout, tout sauf des vacances.
Donc, quand on parle de précarité, à quoi pensez-vous?
Ben, je pense aux gens qui sont dans la mouise, hein, qui ont du mal à vivre, qui ont des salaires trop bas, etc. etc. quoi. Je suppose que c'est ça la précarité, en gros.
Donc, plutôt des éléments financiers, du coup.
Oui, bien sûr, il y a aussi une misère morale, hein, mais ça va, c'est corollaire de la misère financière, souvent. Hein.
Quels sont les éléments qui peuvent vous faire penser que vous êtes à l'abri de la précarité ?
Bah, écoutez, moi je suis retraité, j'ai une retraite modeste mais qui me permet de vivre parce que j'ai pas de gros besoins et de grosses exigences. Voilà ce qui me permet d'être à l'abri de la précarité, mais tout peut arriver, hein, du jour. Donc la maladie peut m'enfoncer, je sais pas moi, tout un tas de choses qui peuvent surgir dans la vie de quelqu'un et qui peut l'amener à la précarité du jour au lendemain. De toute façon, si on n'a pas un volant ou une grosse pile de billets sous son matelas, on risque la précarité à tout moment. Hein. On gère tous une pénurie, si je vous dis.
Alors, quand on parle de précarité, à quoi pensez-vous ?
Bah, la pauvreté, la difficulté de la vie, pour le logement, la nourriture, tout. Bah, c'est la difficulté du quotidien, en fait. Pour le logement, les loyers qui augmentent, les salaires qui, comme tout le monde, les salaires qui ne montent pas, et la dureté de la vie, c'est au niveau pour la nourriture, s'habiller et tout augmente et les salaires non.
Donc, j'avais envie de vous poser la question, quels sont les éléments qui vous feraient penser que vous êtes à l'abri de la précarité ?
Personne n'est à l'abri.
Malheureusement, de nos temps, du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue et même être chef d'entreprise. Et le lendemain, on se retrouve à dormir dans un carton.
Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez en ce moment et qui pourrait vous manquer et qui vous ferait basculer dans la précarité ?
Le courage. Et bien sûr, le travail. Ça, c'est le pilier en fait de la vie, quoi.
Qu'est-ce que ça évoque pour toi aujourd'hui, la précarité ?
Bah, faudrait me dire d'abord ça veut dire quoi la précarité ? D'accord. Quelque chose de précaire, c'est ça ? Une ouais. Situation précaire ?
Ouais, c'est ça.
Quelque chose de pas très stable ? Enfin, là, un peu la misère, la pauvreté. Enfin, voilà, ça m'exprime ça. Enfin, ça m'évoque ça pour moi. Voilà.
D'accord. Donc, en fait, on avait envie de te demander par rapport à ça. Quand on parle de précarité, justement, à quoi ça te fait penser ? Donc, tu disais la misère.
Bah, les gens au quartier, à la Madeleine, par exemple, ici, là, Évreux, bah, là-bas, les gens qui habitent là-bas, ouais, c'est une situation précaire, ouais. Ils n'ont pas trop ce qu'il faut pour vivre, les logements, l'argent aussi. Puis bah, les boulots aussi, ils n'ont pas le même genre de boulot que d'autres gens auraient le droit d'avoir.
Quels sont les éléments qui te font penser que toi, tu es à l'abri de la précarité ?
Je dois répondre sincèrement ?
Oui.
Bah, je sors de prison il n'y a pas longtemps, donc j'ai bien connu. Donc maintenant, à l'abri, je sais pas. J'essaye de faire court, en tout cas. J'ai un appart, j'ai tout ce qu'il faut, je vis mieux qu'avant. Mieux que certaines d'autres personnes qui travaillent depuis 10 ans, donc je vais essayer de garder, puis dans 10 ans, je vous redis ça au pire. Mais je pense que...
Ok, donc un travail, un logement, c'est ce qui a changé.
Bonne situation financière. Après, si tout ça va bien, bah, ça peut qu'aller bien.
Ok, et puis la dernière question, ça rejoint un petit peu ce que tu as déjà dit, mais quels sont les éléments que tu penses qui pourrait faire basculer quelqu'un dans la précarité ?
C'est un peu le manque d'argent. Pas de travail, pas d'argent. Et s'il n'y a pas de boulot, bah, y a d'autres choses à faire, mais c'est pas bien.
Ok.
Ça, c'est plus facile.
Ouais.
Alors, quand on parle de précarité, à quoi pensez-vous ?
Au manque d'argent.
Quels sont les éléments qui peuvent vous faire penser que vous êtes à l'abri de la précarité ?
Aucun, parce que... Je pense pas être quelqu'un de nanti et je sais pas, j'en suis pas loin, mais j'en suis pas rendu là, mais je suis retraité avec une retraite relativement minime et faut faire attention.
Est-ce que ça vous fait peur parfois là, quand vous voyez des gens précaires, quand
Ouais. Ce qui fait peur, c'est qu'il y en a de plus en plus surtout.
De précarité, à quoi pensez-vous ?
Ce sont des gens qui sont en difficulté de logement et financièrement aussi. Je pense que c'est ça, les deux sujets de précarité.
Et quels sont les éléments qui peuvent vous faire penser que vous êtes à l'abri de la précarité ?
Ah, déjà, moi, bon, j'ai ma retraite, j'ai travaillé, hein, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chômage. C'est ça aussi qui m'a... Et puis j'ai ma retraite, donc je pense, mais rien n'est acquis. Hein.
Et pensez-vous qu'un de ces éléments perdus pourrait vous faire basculer dans la précarité? Quel élément pourrait vous faire basculer vers cette précarité?
Si je n'avais pas ma retraite, oui, je basculerais assez vite, même si j'ai quelques économies, mais je basculerais assez vite dans la précarité.
Donc ce serait au niveau de l'aspect financier. Et est-ce que vous pouvez penser à une autre précarité, familiale, sociale?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est surtout financier. Je crois que ce serait déjà la première chose, pour moi, personnellement.
D'accord, bah merci.
C'était ça. Bah oui.
Sur la plage, une enfant que sa mère amenait avait d'abord surpris par un joli visage, si ingénu, si fin, probablement jamais on avait vu si reposant, si sage. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguait, sorte d'inélégance, que cet enfant avait, sans le vouloir, la tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru glacée, et le panorama des sables enlacés, tandis de la mer, je regardais la mer, tandis que de la mer, je regardais la main. Que faisait-elle pencher ou bien la recoiffant? Cette frêle fillette, peut-être de 10 ans. On lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allèrent près de l'écume, la première entendant mouiller sans trop de peine les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Dès que je la vis loin, partie dans une vague, debout sur le rivage, je m'armais de courage. Quel sort la frappe? Quel est son nom? Qu'a-t-elle? Quel sort la frappe? Quel est son nom? Qu'a-t-elle? Jusqu'à ses premiers mois, me répondit la mère. De loin, pareille aux autres, elle était identique. Elle paraissait normale, et puis, soudain, dit-elle, chacun s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas seule. Tenue lavée, monsieur, ne le voyez-vous pas? On lui passe à son pied ce qu'elle ne pourrait pas, une simple sandale qu'elle ne saurait lasser, tandis qu'on lui secoue le sable qu'elle avale. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur, ne sachant le pourquoi de cette iniquité, inquiet. Je l'ai guettée, cette lointaine amie, inquiet, je l'ai guettée, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affolé, prêt à pleurer, perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires. Hanté par tant de choses, peut-être similaires. Sur la plage, une enfant que sa mère amenait
c'était Julien Clerc sur la plage une enfant. Et maintenant, les gazouillis de Jean de la Lune.
Voilà, pour 3 minutes, le Dream Team par les Dream Trees du Clair de Lune. Au dilemme phonème stonien, sur une ozone, ozonance sans nez. C'est un gazouillis, hilarie, sans riz. Une séance d'une séquence à la finitude d'une altitude longitudinale. Une espèce de Trudaine sans avenue à Montparnasse, bienvenue à l'ozone. Une vapeur de l'heure.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir.
Depuis le début de l'année, on a pu voir à la télé, sur toutes les chaînes confondues, des hommages sur la vie, la carrière et la disparition tragique de Claude François, chanteur des années 60-70. Ce qui a engendré sa téléfaisance d'émission, c'est la sortie du film de Florian Emilio Siri, Clo-Clo. C'est la seconde fois qu'un acteur belge incarne la star. On se souvient bien sûr de Bernard Frédéric, parodié par Benoît Poulvord dans le célèbre Podium. Et cette fois, c'est Jérémy Régnier qui s'y colle, qui n'a rien à voir avec le commissaire Moulin. Et je pense qu'il le fait très bien et très sérieusement. Acteur encore méconnu, qui est promu quand même à une, je pense, une carrière assez grande. On a pu le voir jouer dans L'Enfant des Frères Dardenne, La Promesse également des Frères Dardenne, Les Amants Terribles de François Ozon, ou encore Potiche, ou même Le Pacte des Loups de Christophe Gans. Cet acteur est quand même promu donc à une super carrière, interprétation magistrale, tout y est, la ressemblance, le chant, la danse. On croirait que Clo-Clo ressuscité. Un film à voir, s'il est encore à l'affiche en ce moment, je ne sais pas d'ailleurs, mais à acheter en vidéothèque dès qu'il sortira en DVD.
Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur. Aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Principe Actif. Bonjour Didier.
Bonjour Willy.
Impeccable. Alors aujourd'hui, nous allons faire une mousse d'avocat. Une mousse d'avocat au saumon fumé.
Un budget très raisonnable.
Alors, bien sûr, il nous faut des avocats que nous allons tout de suite fendre en deux et éplucher. Je tiens, Didier, oui. Si tu veux bien, oui. Me donner un coup de main. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait avoir un autre couteau, peut-être aussi, dans le studio là. Hop, alors, on fait comme ça, tu vois, rien.
Voilà. C'est et tout simple.
Et on tourne, tac, et ça y est, c'est ouvert. Voilà, alors je vais prendre un petit...
Ouais.
On manque un petit peu de matériel. On va éplucher l'avocat, là. Ah, ça va, ils sont très bien, ces avocats. Bien choisis.
C'est très simple, pour l'instant.
Pour l'instant, ça va, c'est simple. Hein. On file la belle. Une autre fois dans le sens de la longueur. Et directement dans le blender.
Précision, ce qu'est un blender.
Voilà, un blender, c'est un mixeur, hein. C'est pour faire des potages, des purées, c'est comme ça. Merci Didier, on continue. Voici les massages. Alors on a dit 4 avocats, il nous faudra 2 échalotes, une endive, un petit peu de curry, un zeste de citron, des chutes de saumon fumé et un bidon de crème liquide fleurette.
Voilà. Pourquoi la crème liquide fleurette ?
C'est pour monter la mousse dans le blender. Merci, très bien. Alors, est-ce qu'on peut éplucher les échalotes aussi ? Là, il y a 2 échalotes, là. On va les amincer un petit peu, si. suis toujours sur l'avocat. Et voilà. Fini avec l'avocat. Voilà. Oui, oui, on va émincer. Par contre, j'ai pas le bon couteau. Voilà.
Tu veux que je te prête le mien ?
Bon, ça va aller, je pense, on va se débrouiller. Et on va passer au blender. En espérant que ça marche bien. On va y mettre un filet de citron. Juste un fil de citron. Voilà, pour pas que ça noircisse. Hein. Attention. C'était laborieux avec le blender, mais on y est arrivé. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va couper notre endive. Et on met une feuille d'endive dans chaque côté possible. Alors si la vérine était plus grande, on pourrait mettre deux feuilles. Voilà.
Donc on met une feuille
d'endive. Oui, une feuille d'endive, tiens, si vous voulez bien, Didier, s'il vous plaît. Continuez. Voilà. Et on remplit la vérine, donc j'ai les mains. Et on remplit à la petite cuillère, délicatement. Magali, elle peut prendre aussi une cuillère si elle veut.
Et
le saumon, on va le mettre par-dessus. On va l'émincer, on va le mettre par-dessus. On fait glisser la crème comme ceci, le long de la feuille d'endive. Ça sert de gouttière. Comme ceci, voilà.
Voilà, toute une geste.
Et on rajoute le saumon par-dessus, comme ceci.
Alors rappelons qu'est-ce que c'est. Rappelons le
ça fait rigoler beaucoup, j'y sais. Oui. Alors, verrine de saumon, verrine d'avocat au saumon fumé. Au frigo, une demi-heure.
Donc, nous venons de déguster la petite recette de l'avocat au saumon. Qu'en pensez-vous, Jean ?
J'ai un seul souci. J'ai deux soucis. J'ai pas l'habitude d'avoir des soucis. Par contre, j'adore la fleur, le souci. Mais le saumon et l'avocat se marient très mal. Et deuxième temps, le saumon est libre, l'avocat en ferme. C'est les deux différences. Mais l'échalote, elle est souvent sous terre. Je préfère l'ail à l'échalote.
Et Patrick, alors, comment tu as trouvé cette recette ?
Eh bien, je l'ai trouvée plutôt délicieuse. Voilà, c'est une recette que je referai volontiers.
Stéphane ?
Oui, bah, j'ai bien aimé aussi. Peut-être que ça manquait un petit peu de sel, effectivement, mais sinon c'était très bon.
Moi, c'est de la triche. Je fais souvent cette recette à l'apéritif en petite verrine et j'aime beaucoup. Je rajoute des petites crevettes parfois dessus.
Moi, j'aime beaucoup. Je dirais juste que ça manque peut-être un petit peu de banane pour vraiment être parfait.
Moi, je l'ai trouvée aussi délicieuse. Le petit goût d'endive avec l'avocat était aussi très bon.
S'il y avait eu un petit goût de vinaigre de Xérès.
Ah, la bonne idée.
Que l'avocat serait moins gras. Surtout qu'il s'engraisse.
L'avocat. Oui, c'est vrai, il s'engraisse.
La jardinière de légumes, c'est un peu décevant quand même. Quand on nous la sert qu'elle fume, tout le monde a de la peine. On se dit que ça ne doit pas être cool d'être du tiers-monde ou de vivre pendant la guerre, ça rend humble une seconde. La jardinière de légumes, on en a tous déjà pris. Personne ne s'y accoutume, tant pis. C'est un peu comme voyager vers le pays du chômage, et ce juste avec le goût, mais ça fait cher le voyage. Pourtant les carottes c'est bon, les petits pois passent quand t'as un rhume, mais la jardinière là non, c'est du cadavre de légumes. Les légumes en jardinière, on en a tous déjà pris, de force il faut bien l'admettre aussi. Je ne comprends pas pourquoi des gens prennent sur leur temps pour en cuisiner. Quelquefois ils sont certainement méchants, et puis c'est tellement plus simple et avouons-le, ça va plus vite de faire de vrais légumes comme des frites, des pâtes ou des frites. Comme personne n'en prend, elle revient à tous les repas, et ça peut durer longtemps, en soupe ou toujours comme ça. Certains tombent en dépression, d'autres vont vomir en fraude, car ce n'est ni plus au fond que de la macédoine chaude. La jardinière de légumes, c'est un peu comme les oignons, ça fait pleurer sans aucune raison. Les légumes en jardinière, ne m'en sers plus, c'est un crime, c'est ton choix à toi de faire ce régime.
Et c'est vraiment dégueulasse.
Une matrice elliptoïdale, elliptoïdale. Donc, je ne sais pas très bien dans quel sens je vais, ni quel est mon point de départ. Par contre, j'ai rencontré les quatre phases lunaires. Dire, savoir, faire, comprendre. Alors je ne sais pas dans quel sens je tourne, ni quel est mon point de départ. Mais je vais donner deux, trois exemples. Si c'est trop long, vous me le dites. Faire, je tourne à gauche. Savoir, faire savoir. Savoir, je tourne à gauche. Dire, savoir dire. Je tourne à gauche. Dire, comprendre. Je vais partir de comprendre. Je tourne à droite. Comprendre, faire. Faire savoir. Savoir dire, dire comprendre. Je ne sais pas très bien où est mon point de repère, mais j'y arrive toujours avec les quatre mots à savoir dans quel sens je suis.
Aux zones libres. 23 avril 2012. Un auditif à multiples phonèmes, à l'écriture sans rature. Dans une ère hébroïcienne, à la couleur de la terre sienne, sans chienne, un espace lunaire, d'un bleu clair de lune, pour une voix, X ou E comme vous voulez, verniculaire, à l'air, sans E avec un E ou un accent grave, du temps Chanel, qui passe, un passereau radiophonique, nonaphone, sans portable, que de Hertz, hertzienne, des Brabants, au timon timonier, accroché à une croche musicale chroniqueuse, une gazette et même un gazouillis sans taillis. C'est hilarant sans harang. Un petit prince oiselet aux aisselles sans ailes, aïe ou deux ailes comme vous voulez, et pluriel sans singulier, disait le sanglier. Un tablier de sa peur, sans peur, à l'heure, avec un H ou sans H et une majuscule hébroïcienne. Un doux spectacle radiophonique à l'hyaphone dans la faune. Peut-être une tempête sans être intempestif, festoyant, un dimanche sans, un peu plus de 99, manche, ni pioche, ni réverbère pour un verbère. Bon vent au gré de la lune. Chant de la lune.
Bonjour Patrick.
Bonjour Sandrine. Donc aujourd'hui nous allons vous faire les 3 minutes du pôle. Donc premièrement on définit un peu le pôle SMS. C'est le pôle santé mentale et société qui est un peu l'entité administrative rattachée au centre hospitalier de Navarre qui comprend différentes structures de soins, à savoir la maison d'arrêt d'Évreux, l'UXA de la maison d'arrêt d'Évreux, le centre de consultation de la Madeleine, Respire, et le XAPA rue Buzo, et ensuite la permanence d'accès aux soins psychiatriques. Donc, l'idée de ces différentes structures, c'est que on a remarqué que les gens qui sont dans la précarité ont un besoin de santé et qu'il y a un lien d'interdépendance entre la précarité et la santé psychique. Donc, nous sommes une équipe pluridisciplinaire afin de prendre de faire une prise en charge globale, donc qui est composée de médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux et éducateurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du travail de l'infirmier dans ces différentes structures.
Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des études pour être infirmier, qui sont de 3 ans et demi après le bac. Il y a un institut de formation en soins infirmiers à Évreux, situé à Saint-Michel. Jusqu'en 1994, il y avait un diplôme spécifique pour les infirmiers qui travaillaient en psychiatrie, qui n'est plus à ce jour, où l'enseignement infirmier est de façon générale. Notre rôle d'infirmier en psychiatrie n'est pas toujours très bien connu. Il y a des infirmiers présents au sein des centres hospitaliers de Navarre, mais aussi des équipes qui travaillent sur l'extérieur, c'est-à-dire pour assurer la continuité des soins. Notamment, ils sont présents dans les centres médico-psychologiques, les centres thérapeutiques à temps partiel, les hôpitaux de jour, et aussi sur Respire. Donc je vais vous parler plus particulièrement de notre rôle sur Respire à ce jour. Donc effectivement, nous n'avons pas de blouse blanche, nous ne faisons pas de soins somatiques. Notre rôle est d'aller au-devant d'un public en situation de précarité qui ne demande rien, c'est-à-dire des personnes SDF, des sortants de prison, des personnes ayant des problèmes d'addiction, des demandeurs d'asile. Nous sommes une équipe mobile et nous nous déplaçons là où se trouve la personne. Ces personnes ont parfois développé des troubles psychologiques et ou psychiatriques qui peuvent être liés à un parcours de vie parfois difficile. Et personne n'est à l'abri de se retrouver à la rue. Je fais suite un petit peu au micro-trottoir que nous avons comme rubrique tout à l'heure. Personne n'est à l'abri de connaître les plongeons vers les addictions et de ne plus avoir le courage de se reconstruire. Nous travaillons en réseau avec de nombreux partenaires, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des tuteurs, présents dans différentes associations ou centres d'hébergement et de réinsertion sociale à Évreux. Notre soin est basé essentiellement sur une écoute, d'établir une relation de confiance pour amener ces personnes à retrouver peu à peu une estime d'elles-mêmes, leur permettre d'accéder à des soins, que ce soit somatiques, psychologiques ou psychiatriques, pour essayer de se sortir de cette descente aux enfers. Nous prenons le temps de connaître chaque personne, nous adaptant à chaque situation. Parfois, nous rencontrons aussi des personnes qui font des, qui ont perdu tout repère et qui font des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Car après une peine relativement longue, ces personnes sortent parfois sans savoir où héberger, sans savoir où s'adresser, sans savoir où continuer leurs soins, et se retrouvent très vite confrontées à la réalité et parfois dans la précarité. C'est pour cela que nous travaillons ensemble avec Patrick, qui est infirmier à Luxa, qui va vous décrire un peu plus son travail.
Donc Luxa, c'est l'unité de consultation et de soins ambulatoires qui est présent au sein de la maison d'arrêt d'Évreux. Donc nous, en tant qu'infirmiers psy, nous accueillons les détenus ou nous les aidons un petit peu, ou nous les écoutons et où ils peuvent déposer auprès de nous ce qui est difficile pour eux dans ce moment qu'ils traversent en se faisant incarcérer. Autrement, nous sommes présents 8 heures par jour et au cours de la journée hein, ou à n'importe quel moment, il peut nous arriver de faire hospitaliser un détenu pour diverses raisons, soit parce qu'il a fait une tentative de suicide, soit parce qu'il a décompensé, il y avait une maladie préexistante ou qui émerge à ce moment-là. Et puis, autrement, nous aidons, nous accompagnons les gens aussi pour la réalisation de projets, pour la sortie. Voilà. Donc, notre travail est essentiellement basé sur la parole. Et nous faisons aussi un travail de réorientation et en étroite collaboration avec les psychologues. Voilà. Eh bien, voilà, c'était pour les 3 minutes du pôle. Nous avons donc un travail pluridisciplinaire, ce qui veut dire que la prochaine fois, nous aurons l'intervention des psychologues.
Et à ce que je vois, personne ne veut conclure l'émission. Ah, c'est-à-dire que vous êtes allés au bout tous, autant que vous étiez de cette préparation. Et tout le monde se regarde. Non,
mais
nous ne conclurons pas.
Mais je ne m'y attendais pas du tout.
Avant de conclure, il y a une pensée personnelle. Voilà, c'est ça, c'est l'humain avant tout. Non, rapproche-toi, Béatrice. C'est l'humain avant tout. Nous le disions au générique, nous le disons tout au long de cette émission. Et l'humain avant tout, c'est qui?
Alors, Vivien n'est pas présent aujourd'hui, mais il est présent en pensée. On voulait juste lui souhaiter
un bon anniversaire.
On se dit au mois prochain?
Eh bien, un truc comme ça.
Merci de nous avoir écoutés.
Au 3.
Et puis, à la prochaine.
Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.